Bac FM, il est 18h30. Mon invité du soir aujourd'hui est Antoine Ducrot. Il est capitaine du SDIS de Nevers. Il est également officier référent départemental pour le volontariat. Et il va répondre à cette question. Comment on devient pompier volontaire? Il va également nous indiquer tout ce qu'il faut savoir sur cet engagement. Bonjour Antoine Ducrot.
Bonjour.
Vous êtes capitaine au SDIS de Nevers.
C'est ça.
Ça veut dire quoi être capitaine?
Alors déjà le SDIS de la Nièvre déjà, hein, c'est un établissement public administratif, hein, qui gère tout ce qui est incendie et secours à l'échelle du département. Donc c'est un établissement public administratif, hein, avec une double gouvernance, si on peut l'appeler comme ça, hein, une partie administrative et financière qui est assurée par un conseil d'administration avec un président qui est le conseiller départemental délégué du président du conseil départemental, en l'occurrence M. Michel Mulot, donc pour toute la partie administrative et financière. Et l'autre, pour la partie opérationnelle, c'est Monsieur le préfet de la Nièvre, Monsieur le préfet Galli, qui s'occupe de cette partie-là en lien avec le directeur départemental.
C'est compliqué en ce moment d'expliquer à quel point c'est important les pompiers sur un département, mais en France en général.
Alors, je dirais pas que c'est compliqué. L'enjeu pour nous, alors au niveau national, régional, départemental, on a beaucoup de relais donc médiatiques, hein, dont vous faites partie, ouais, dont la télé fait partie, les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'images qui circulent. Malgré tout, notre organisation est peut-être un peu méconnue, parce que on voit beaucoup, surtout à la télévision, des reportages sur des chaînes, mais qui sont des reportages dans des grandes villes.
Sur des services de secours, et pas forcément les pompiers d'ailleurs.
Et même des grandes villes, des services très urbains, où la réponse est très très organisée, ouais, avec une manne assez importante de pompiers professionnels, voire des pompiers militaires à Paris et Marseille. Mais en ruralité, cette organisation est loin d'être la même, parce qu'elle repose sur le pompier volontaire, ouais, sur le volontariat. À l'échelle du département de la Nièvre, hein, c'est 46 centres d'incendie et de secours, en comptant le centre de traitement des appels. Sur les 45 centres de secours où il y a des hommes, il y en a 5 ou 6 dans lesquels on a des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Donc sur ceux-là, voilà, c'est vraiment dans le tissu urbain, voire périurbain, où on a des demandes de secours de manière importante, où là, cette réponse est organisée avec des gardes, voire des gardes postés, ouais, donc des pompiers à la caserne prêts à partir pour donner les secours, alors qu'en ruralité, cela repose uniquement sur le volontariat, des pompiers volontaires qui se déclarent disponibles, et donc ils doivent concilier leur vie privée, ouais, leur vie professionnelle et leur vie de sapeur-pompier. Ouais. Donc, quand on met tout ça dans l'équation, cette balance à trois plateaux, comme on l'appelle, elle peut être compliquée, parce que on a une chance, c'est qu'on a très très peu de sapeurs-pompiers volontaires qui sont au chômage. C'est plutôt une richesse. La contrepartie de ça, c'est que malheureusement...
C'est que c'est un inconvénient pour l'organisation.
Ils ne travaillent pas beaucoup sur leur bassin de vie. Ils s'expatrient souvent pour travailler à l'extérieur. Donc, en journée semaine, ils ne sont pas présents, ouais, sur leur territoire. Donc, c'est la complexité, hein. Trouver des pompiers volontaires en journée et semaine, c'est un travail de longue haleine, c'est un des axes majeurs identifiés par le directeur départemental, et celui sur lequel nous travaillons au maximum. Alors pour mon service, en allant voir les employeurs, en discutant des conventions de disponibilité, en étant sur le terrain, en expliquant toujours et toujours pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise ou à la collectivité. Hein. C'est vrai que le pompier volontaire, c'est quelqu'un qui est formé, qui sait porter secours aux autres, qui sait intervenir sur un début d'incendie, qui est aussi porteur d'un certain nombre de valeurs, ouais, hein, l'esprit d'équipe, la ponctualité, la rigueur, la solidarité, des valeurs très très transversales et qui forcément, s'ils le sont chez les sapeurs-pompiers volontaires, ils le seront aussi dans le cadre de leur emploi. Donc on va sur tous les leviers possibles, et bien on essaie de les actionner.
Alors ça c'est intéressant, vous parlez de votre service, vous êtes chef du service citoyenneté et volontariat, vous venez de nous dire à l'instant, on va aller sur le volontariat hein, bien sûr, parce que c'est l'axe majeur de cet entretien, mais vous avez dit à l'instant que vous alliez des fois voir les employeurs pour évoquer avec eux la possible disponibilité à l'avenir de certains de vos pompiers volontaires. Oui. En fait, ça se passe comment, par exemple, si moi, demain, je deviens sapeur-pompier volontaire et que vous allez aller voir ma directrice en disant, écoutez, ce serait bien que Théo ne fasse pas d'émission, par exemple, le vendredi, parce qu'on aura peut-être besoin de lui?
Alors, on va pas l'aborder totalement comme ça. On va déjà, en discutant avec le pompier volontaire, voir si son employeur est sensible à la cause, entre guillemets, et s'il s'inscrit déjà
s'il est ouvert à la discussion,
dans une démarche un peu citoyenne et civique de ce point de vue-là. Est-ce qu'il serait prêt à nous accorder quelques facilités d'autorisation d'absence pour son salarié, dans le cadre d'une entreprise privée, par exemple, ou n'importe quel employeur. Et là, en fonction de ça, on détermine si notre employeur, qui deviendra à terme un employeur partenaire, il peut nous libérer son agent, peut-être pour aller se former, partir en intervention. Et à chaque fois, pour l'aspect formation comme pour l'aspect opérationnel, on va voir, en fonction des contraintes de l'entreprise ou de la collectivité, on va voir ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. L'idée, c'est qu'on sait que de toute façon, ce sera une contrainte supplémentaire pour l'entreprise, forcément. Donc, le tout, c'est de déterminer jusqu'où c'est acceptable ou pas. On a des entreprises c'est vrai que je parle souvent d'entreprises, mais c'est pas le bon terme. On a des employeurs qui vont nous dire, alors là, très bien, on va autoriser notre agent à s'absenter 5 journées par an sur le temps de travail pour aller en formation.
Ouais.
Et puis, par contre, pour les opérations, ce ne sera pas possible parce que il accueille du public. Et là, pendant qu'il accueille du public, on n'a pas d'autre solution, on ne pourra pas le libérer.
Ouais.
Ou à contrario, on va nous dire, il a des missions où il est tout seul, il n'a personne avec lui, c'est du travail de bureau, mais qui en fait peut attendre. Ou alors, c'est quelqu'un qui a un statut cadre, donc qui organise ses horaires un peu comme il veut.
Ouais.
Et là, ils vont nous dire... écoutez, en gros, il pourra s'absenter sur son temps de travail. Donc là, voilà j'ai brossé deux autres
sujets.
Mais
alors, à ce moment-là...
Mais après, en fonction de ça, selon ce qui va être permis par l'employeur, on va le contractualiser par une convention dans laquelle on reprend tous ces chapitres-là, où on dira aussi si l'employeur souhaite être subrogé ou non, c'est-à-dire il laisse le salaire à son agent pendant qu'il est parti, mais il peut demander à récupérer les vacations que le pompier touche. Il peut demander ou pas.
D'accord.
C'est très peu demandé, mais bon, c'est une possibilité.
C'est une possibilité, ouais.
Comme le mécénat, une entreprise privée peut demander du mécénat, c'est-à-dire que sur les heures pendant lesquelles il va laisser partir son agent, pour la société, ça aura coûté une somme. Cette somme-là, ça pourra prendre la forme d'un don fait au service de secours et faire du mécénat. Des leviers réglementaires qui sont encore en train de discussion,
Ouais.
Pour l'instant, voilà, c'est bon. Le volontariat, les pompiers volontaires, c'est vraiment dans le cœur du réacteur en ce moment. C'est une cause nationale. Le volontariat est important. On le voit quand il y a des catastrophes, feux de forêt 2022 en Gironde, mais les feux de forêt en général, les inondations dans le Pas-de-Calais, mais toutes les catastrophes, tous nos risques majeurs, qu'ils soient naturels ou technologiques, ça fait appel au moment où l'intervention arrive, l'intervention à haute intensité, de grande ampleur, elle fait appel à des ressources. Et le volontariat est à l'heure actuelle une des conditions sine qua non pour assurer toutes ces missions.
Les interventions les plus communes là, sur le département pour les pompiers, c'est quoi? Quelle est la raison?
C'est le secours à personne ou l'assistance à personne. Pour le service d'incendie et de secours de la Nièvre, comme pour tous les services d'incendie et de secours de France, la mission, on va dire, régalienne, la lutte contre l'incendie que seuls les pompiers font, elle représente 7% de l'activité.
D'accord.
Donc, on a toute la mission de secours et d'urgence aux personnes qui compte plus de 80% de nos missions.
En revanche, des pompiers volontaires de la Nièvre peuvent être appelés pour des incendies qui vont se passer dans le sud de la France ?
Exactement.
Ouais.
Disons que les pompiers volontaires, au même titre que leurs collègues professionnels, quand il y a des interventions de grande ampleur qui apparaissent, ils sont mobilisés. Hein. Nous, on a une organisation très hiérarchisée. Hein. Notre service départemental d'incendie et de secours, il appartient à la zone de défense Est, qui a en son sein un centre opérationnel zonal qui coordonne tous les départements de la zone.
Mmh.
Et quand il y a des sollicitations d'un département qui subit une catastrophe, des feux de forêt, d'inondations, il fait une demande au centre opérationnel de gestion interministérielle de crise situé à Paris, au ministère, qui lui, en fonction des besoins, va chercher dans tous les départements de France et coordonner l'envoi des secours. Des secours qu'ils soient terrestres, hein, les véhicules, ou alors les moyens de lutte aérienne, hein, les Canadair, les Dash. Voilà, c'est une organisation de sécurité civile à l'échelle nationale. Donc tout le monde est interconnecté. Voilà, les demandes se font et en fonction des moyens disponibles, les renforts sont envoyés.
Ça permet de piloter les besoins.
Exactement.
Bien sûr.
Ouais.
78%, ça, c'est le pourcentage de pompiers volontaires, ce que représentent les pompiers volontaires des sapeurs-pompiers en France. Est-ce que vous avez le pourcentage à peu près dans la Nièvre de ce que représentent les sapeurs-pompiers volontaires ?
La Nièvre, c'est 85 ou 86%. Pour moi, c'est 85%, mais bon, c'est cette idée-là. Donc, on est un petit peu plus. On a un pourcentage un peu plus élevé par rapport à la France.
J'imagine que la Nièvre recherche aussi des pompiers volontaires.
Alors la Nièvre, hein, comme bon nombre des services d'incendie et de secours de France, cherche à recruter bien évidemment des pompiers volontaires. On n'est pas non plus. Enfin, ce qui est compliqué pour nous, c'est d'arriver justement, comme j'en ai parlé un petit peu en préambule, c'est l'employabilité de nos pompiers volontaires en journée semaine. C'est-à-dire que le nombre est dans la norme française, grosso modo, pour 100 000 habitants, on a 500 à 600 pompiers volontaires.
C'est assez.
C'est le chiffre national qui pour moi peut être suffisamment dimensionné, sous réserve qu'on puisse les avoir au moment où on en a besoin, en journée semaine. Donc on est totalement dans la moyenne nationale, mais une fois que j'ai dit ça,
il y a des problèmes quand même annexes à tout ça.
C'est pas pour autant que nos secours sont donnés de manière la plus aisée possible. Donc voilà, on cherche aussi bien sûr à recruter des gens qui auraient de la disponibilité le plus possible en journée semaine. Alors tout ce qui est horaire décalé.
Ouais.
Que ce soit des usines entre 8, que ce soit tous les métiers qui travaillent en 12 heures, des gens qui travaillent à l'hôpital. Enfin, voilà, le week-end, la nuit, les jours fériés, voilà, les gens sont à peu près chez eux. Bon, c'est bien sûr des loisirs, mais là, le nombre de pompiers volontaires remonte et on est dans des dispositions correctes pour des secours. Ça se passe pour le mieux. En journée semaine, forcément, comme je l'ai dit depuis le début, c'est plus compliqué parce que la disponibilité est assez volatile, aléatoire et hyper dépendante du travail de nos pompiers volontaires.
Bon, alors si vous nous écoutez et que vous ne bossez pas la semaine, que vous bossez peut-être que le week-end ou que vous avez du moins plus de facilité à vous rendre disponible la semaine, eh bien c'est pour vous. Comment on fait déjà pour devenir pompier volontaire, sapeur-pompier volontaire ? Comment on le devient ?
Alors, déjà, on a des conditions d'âge. Il faut être âgé de 16 à 60 ans. Vous voyez, on est très large, en termes de fourchette. Il faut avoir, et ça me semble être la base de tout engagement citoyen. Le pompier volontaire, c'est un engagement citoyen par excellence. Il faut avoir envie d'aider, donner de sa personne, être disponible, avoir de l'intérêt pour les autres. Aider son prochain, même si c'est vraiment s'engager pour la population, s'engager pour aider. Il faut aussi habiter j'allais dire, pas trop loin, à proximité d'un centre d'incendie et de secours, pour être mobilisable dans un délai assez correct.
Oui, parce que si vous êtes appelé, mais que vous prenez plus de temps qu'à aller sur place sauver la personne, il y a un problème, là, oui.
Bon, alors, bon, là-dessus, on est à un moment où on a un logiciel de traitement de l'alerte qui est en train de se mettre en place avec une gestion de la disponibilité des personnels avec des délais de mobilisation, 10, 15 ou 20 minutes, 30 minutes, c'est-à-dire que ça nous permettra de, d'avoir de la disponibilité assez... assez réel au moment où on a besoin, c'est-à-dire de savoir en combien de temps nos pompiers volontaires vont, et pompiers professionnels aussi, mais en combien de temps ils seront mobilisables pour faire partir un véhicule. Donc ça apportera une plus-value parce que ça permettra d'anticiper, de voir de manière plus fine quels sont nos moyens humains mobilisables. Mais bon, voilà, donc c'est pour ça que je ne vais pas parler vraiment de distance par rapport à une caserne. Pour l'instant, on disait jusqu'à maintenant qu'il fallait être dans un rayon de 10 minutes. À l'avenir, je pense que c'est plutôt... ça reste souhaitable. Néanmoins, rien n'est figé là-dessus.
Oui, bien sûr.
Et,
ouais.
on est en train de se dire que toute force vive est bonne à prendre et que si à un moment... pour X ou Y raison, il est compliqué de faire partir des secours proches, et ben, il vaut peut-être mieux des fois attendre quelqu'un qui se mobilisera en 20 minutes que quelqu'un qui va venir de 40 minutes. C'est la vérité de l'instant qui va compter. Voilà. Dans les conditions, alors avoir aussi une bonne condition physique et médicale, voilà, même si on veut pas recruter des athlètes de haut niveau, on veut...
Il y a un test qui est fait ?
Alors... OSDIS de la Nièvre, nous n'avons que sur les casernes de l'agglomération de Nevers où on a des petits tests en fait avant.
D'accord.
Sinon, partout ailleurs dans le département, j'allais dire celui qui veut rentrer pompier volontaire se présente à la caserne, il y a un entretien avec le chef de centre. On parle du CV, des motivations, le pourquoi, enfin un petit peu ce que j'ai expliqué avant, quelles sont les motivations à rentrer comme pompier volontaire. Et après, il y a toute une visite médicale à faire avec des tests assez complets parce que, et ça c'est une chance pour les pompiers volontaires, on a une visite obligatoire par an qui est hyper...
hyper poussée.
Hyper, enfin, même pas poussée. Pousser, c'est peut-être un grand mot, mais on a quand même un électrocardiogramme, on a un test de vue, on a les oreilles, le spiromètre pour le souffle, une visite devant un médecin. Enfin, c'est une vraie chance, parce que ça permet de voir où on en est physiquement. Et pour nos collègues pompiers volontaires qui sont en cours de recrutement, ça permet de voir s'ils sont dans les conditions prévues par les textes réglementaires pour rentrer comme pompiers volontaires. Et ça, c'est vraiment le plus important parce que sans aide d'un... Je disais, c'est pas des sportifs de haut niveau, mais il faut un minimum. Et cette visite médicale de recrutement, elle permet de dire qu'on est au minimum, voilà, de ce qui est prévu par les textes. Ça c'était l'aptitude médicale. Ensuite on a aussi des obligations de vaccination, donc les vaccinations de base, j'allais dire infantiles, plus l'hépatite B qui là, et c'est aussi le moment de le dire au public, si vous avez cette envie de rentrer comme pompier volontaire, ce qui va, si vous cochez toutes les cases, si vous avez tout ce qu'il faut, même pas les compétences, mais toutes les motivations nécessaires pour être pompier volontaire, sachez que le recrutement ne pourra pas avoir lieu tant que la vaccination contre l'hépatite B ne sera pas complète.
D'accord.
Voilà, c'est-à-dire qu'une vaccination, pardon, contre l'hépatite B, c'est un schéma vaccinal qui dure 6 mois. Donc, c'est-à-dire que si elle est faite, le recrutement peut se faire très vite. Par contre, si elle n'est pas faite,
il y aura un délai de 6 mois.
Il faudra la faire, voilà. Bon. Après, pendant ce temps-là, on a des processus qui sont en place dans certains endroits où on fait un peu d'immersion. Ça permet de venir à la caserne, découvrir le monde, voir ce qui s'y passe, rencontrer les collègues. Alors, c'est un moment qui peut être aussi intéressant parce que ce n'est pas parce qu'on se dit qu'on ne peut pas rentrer à l'instant T, à l'instant où on le souhaiterait, que ce ne sera pas possible. C'est un moment qu'on pourra mettre à profit aussi pour, si on a peut-être aussi des doutes, aller voir un petit peu ce qui se passe, sentir l'ambiance et de se dire, oui, c'est vraiment fait pour moi, ou alors, ouais. Ah, bon, peut-être que je me suis emballé et c'est pas fait pour moi.
Mais est-ce que ça, justement, c'est possible? Par exemple, voilà, je sais pas moi, un jeune qui a 16 ans et demi, il a peut-être envie d'intégrer une caserne de pompiers, de devenir sapeur-pompier volontaire, mais voilà, il sait pas trop encore, il se cherche sur pas mal de points. Est-ce qu'il peut venir une semaine, deux jours, je sais pas, en immersion, pour voir si ça lui plaît, si ça lui convient et si ça lui parle?
Alors, en termes d'immersion, au-delà de ce que j'ai indiqué juste avant, ouais. En termes de possibilités, pour quelqu'un qui vraiment quand même serait déjà intéressé, aurait envie d'eux, les dispositifs qu'on a, ça peut être des stages d'immersion de troisième.
D'accord.
Ou, bon, ça peut être pour se donner une idée d'un futur métier, mais ça peut être aussi, on peut faire d'une pierre deux coups, venir faire ces stages en caserne pour voir comment ça se passe. On accueille aussi dans les centres d'incendie de secours les écoles qui viennent visiter, voir le matériel. On fait aussi dans les collèges des classes de cadets de la sécurité civile où on est un partenaire privilégié de l'éducation nationale. On accompagne des jeunes de classe de 6e ou de 5e sur tout le dispositif des cadets. On leur fait de l'information préventive au comportement qui sauve. On les met en lien avec nos collègues gendarmes, avec les associations de sécurité civile. Enfin, on essaie de créer tout ce bruit de fond, ouais. Pour être connu, pour expliquer qui on est, comment on est organisé. Et là, je reboucle avec ce qu'on s'est dit au début. C'est vraiment être présent sur le territoire, faire du lien, expliquer sans cesse le pourquoi du comment du pompier volontaire, le volontariat et l'engagement citoyen.
Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir aussi pour pouvoir devenir sapeur-pompier volontaire que vous vouliez mettre en avant?
Et la dernière des choses, c'est aussi, et je rejoins la balance à trois plateaux du début, c'est d'accepter de donner un peu beaucoup de son temps libre. Après, c'est une question de graduation. Pour moi, ce qui est important pour le pompier volontaire, c'est de donner ce qu'il peut donner, tout en respectant sa vie privée et sa vie professionnelle. Mais quand on fait rentrer l'activité de pompier volontaire, on sait qu'à un moment ou un autre, ben, ça aura un impact sur notre vie privée, notre vie personnelle. Quand c'est des nuits passées en intervention, pour certains, ça peut être un peu plus compliqué le lendemain au travail. Bon, c'est une chose. Mais ça peut être aussi, quand on a prévu de partir avec sa femme ou son conjoint et les enfants, c'est peut-être un moment où ils partiront sans nous. Un repas de famille où on s'absente. Enfin, voilà, c'est... Et je dis ça, c'est pas du tout pour décourager, pour faire peur, mais
quand on souscrit
cet engagement-là, on sait qu'à un moment, je vais pas dire qu'on s'appartient plus, mais qu'on sait qu'il y aura des concessions à faire. C'est un engagement aussi, et ça c'est important d'insister là-dessus, qui est librement consenti, qu'on partage avec aussi les gens qui partagent notre vie. Donc il faut aussi qu'eux sachent à quoi ils doivent s'attendre s'ils sont en ménage ou en couple ou mariés ou peu importe avec un pompier volontaire.
À l'image de l'absinthe un petit peu, là vous êtes d'absinthe à l'heure actuelle, vous m'avez dit en arrivant que votre téléphone pouvait sonner à tout moment.
Moi je suis d'astreinte sur le département en qualité de chef de colonne,
ouais.
Et c'est-à-dire que moi pendant une semaine du jeudi soir à 19h jusqu'au jeudi soir de la semaine d'après, je peux être alerté à tout moment pour partir sur une intervention qui correspond à ma fonction de chef de colonne.
Ça peut être le cas de sapeurs-pompiers volontaires, ça aussi?
Oui, parce que moi, j'ai cette... les pompiers volontaires, comme les pompiers professionnels, peuvent tenir les mêmes emplois opérationnels. Et les tiennes, moi, je suis d'ailleurs... je ne suis pas pompier professionnel. Moi, je suis personnel administratif et technique au SDIS.
D'accord.
C'est-à-dire que moi, je suis un fonctionnaire territorial. Hein, qui a un engagement de pompier volontaire. Et sur cette fonction de chef de colonne, nous sommes 7 à la, 7 à la tenir à l'échelle du département. Et il y a 3 pompiers professionnels et 4 pompiers volontaires.
D'accord.
Donc voilà, notre formation de chef de colonne est la même. Et donc on... Voilà, il y a juste le statut qui diffère, mais la mission est la même. Voilà.
Ouais, donc des sapeurs-pompiers volontaires peuvent s'attendre aussi à ça, à être en famille, en train de profiter à tout moment, ils peuvent être bipés pour partir.
Ah, le pompier volontaire, par définition, c'est ça. Le pompier volontaire, son système privilégié de fonctionnement, c'est l'astreinte ou la disponibilité. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'est pas, pas à la caserne en garde, ou très très peu. On a quelques gardes postés de pompiers volontaires qui sont quelquefois, enfin qui sont en caserne, qui sont au contact de leurs pompiers professionnels qui eux sont de garde. Voilà, c'est une possibilité qui est donnée aux pompiers volontaires. Alors bon, c'est intéressant parce que pendant qu'il est de garde avec le pompier professionnel, il fait plus d'interventions, il s'aguerrit, il discute aussi avec ses collègues pompiers professionnels qui l'aguerrissent aussi, qui ont peut-être un peu plus de vécu, plus d'expérience. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est de la co-construction. Chacun apporte à l'autre. Et c'est pour ça que cette complémentarité entre les statuts, elle est indispensable. Mais voilà, il faut quand même revenir un petit peu à la base des choses. Hein. Un pompier volontaire, il est d'astreinte ou il est disponible, et plutôt chez lui. Et le pompier professionnel, il est en caserne, prêt à partir, ou alors, comme la majeure partie, comme un certain nombre, à l'état-major dans les services fonctionnels qui permettent à nos collègues de partir en intervention.
Voilà. Dans le volet obligation pour devenir sapeur-pompier volontaire, il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué, que j'avais noté, c'est le fait d'absence de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. Ça veut dire que, par exemple, une personne qui va être condamnée pour incendie criminel, qui veut, entre guillemets, se racheter, ne peut pas devenir sapeur-pompier ?
Un pompier volontaire, quand il demande à être incorporé, qu'il a rempli le dossier, il y a une recherche qui est faite au niveau du casier judiciaire. Et s'il y a un casier judiciaire, alors je ne sais plus quel numéro de casier, mais en gros, dès qu'il y a une condamnation pénale, tant que l'inscription figure au casier, il n'est pas possible d'entrer pompier volontaire.
D'accord.
Ouais. Il faut,
donc si cette personne, par exemple, l'exemple que j'ai donné, qui est un exemple parmi tant d'autres qu'il peut y avoir, et qui veut se racheter, il faut qu'il attende que sa condamnation ne soit plus dans son casier judiciaire pour pouvoir devenir sapeur-pompier volontaire et se racheter intérieurement, on va dire.
Éventuellement, voilà, mais voilà, sans présager de rien, de ce qui peut se passer, tant que la mention apparaît au casier judiciaire, c'est incompatible avec l'exercice de l'engagement de citoyen de pompier volontaire.
Est-ce que vous savez si certaines casernes sur le département recherchent plus de sapeurs-pompiers volontaires que d'autres ?
Pas nécessairement, en fait.
Si, par exemple, on parle du Morvan, qui est un petit peu une région un petit peu à part de notre département, malheureusement, pour plein de raisons, est-ce qu'il y a des casernes, peut-être là-bas, qui vont rechercher plus de volontaires que autour de Nevers ?
J'aurais beaucoup de mal à aller sur ces dimensionnements-là parce que on va toujours chercher à recruter des compétences, à recruter des collègues ou des personnes qui ont la fibre, cette envie d'aider, hein, que j'ai décrite. Et alors, effectivement, on est à la recherche de tous les profils qui sont intéressants, qui peuvent répondre à toutes ces missions-là. Bien évidemment, si on pouvait recruter de façon durable et pérenne un certain nombre de pompiers volontaires, on le ferait avec grand plaisir. Nonobstant ce que j'ai décrit avant, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est que nos pompiers volontaires, c'est qu'on puisse les employer au maximum la journée semaine, parce que, encore une fois, le nombre est plutôt en adéquation avec la moyenne nationale. J'allais dire que si on pouvait les employer en journée semaine sans trop de difficultés, le nombre irait plutôt pas mal pour les interventions qu'on a à faire. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir de recruter, c'est-à-dire d'avoir une manne plus importante de pompiers volontaires pour, j'allais dire espérer, mais oui, c'est un peu ça, en avoir le plus possible mobilisable la journée semaine.
Je vais faire mon petit chauvin, mais en même temps, là, c'est quand même intéressant de l'évoquer. On en parlait tout à l'heure hors antenne avant d'allumer les micros. On m'avait parlé de la caserne de Moulins-Gilbert. Moi, il se fait que je viens de là-bas. Il m'avait dit que c'était une caserne totalement à part, étonnamment à part du moins.
Alors, étonnamment à part, par le fait que ils ont une un certain nombre de personnes qui sont disponibles la journée en semaine.
Et pourtant, alors, tout le monde bosse à Moulins, hein, c'est pas une ville de chômeurs. Hein,
non, non, mais tout à fait, sans aller là-dedans, c'est que peut-être qu'il y a un peu plus d'emplois, j'allais dire, local sur Moulins. On a 3 ou 4 employés communaux. On a deux agents qui travaillent au département. Enfin, les employés communaux ont une convention de disponibilité, donc ils sont libérés par le maire. On a deux agents du conseil départemental avec qui on a une convention cadre assez forte qui libère aussi.
Il y a aussi
quelques
beaucoup
sociétés qui libèrent aussi même sans convention. Oui. On va dire un certain nombre d'agents pompiers volontaires Moulins. C'est un des centres où je me suis formé il y a 25 ans quand je suis rentré. Et c'est une fibre qui a toujours été entretenue. C'est un centre où ça s'est toujours formé. Il y a toujours eu un petit peu. Ce bruit de fond a toujours été entretenu. Et puis à l'heure actuelle, j'allais dire qu'il surnage peut-être un peu plus que les autres en termes de disponibilité. Mais c'était pour le petit clin d'œil moulinois. Ouais.
Mais c'est parce que aussi peut-être que ça s'explique par le fait que voilà, certaines personnes sont employées dans des entreprises, chez des commerçants qui comprennent aussi l'importance des pompiers et qui vont naturellement laisser disponibles ces gens-là quand ils en ont besoin.
Ouais.
Qui s'adaptent du moins aux besoins pour la commune.
Il y a cette adaptation. Hein, c'est la conjonction de tous ces phénomènes-là qui se passent plutôt pour le mieux à Moulins, mais disons que à Moulins ça dure vraiment depuis des années et entre guillemets je vais toucher du bois, ça s'est jamais trouvé entravé par plusieurs conjonctions d'événements qui font qu'à un moment ou un autre ça devient compliqué quoi. Donc voilà, ce que je souhaite, c'est que ça dure comme ça le plus longtemps possible et que toutes les casernes qui sont des fois pour certaines un peu dans la difficulté, eh ben on tende à remonter, à les aider, à les accompagner. Mmh. Moi, un de mes jobs le plus important, c'est d'aller voir les employeurs, expliquer les conventions, expliquer pourquoi c'est important. Et bon, ben, j'ai modestement tendance à penser que les choses vont de mieux en mieux.
Je suis un éternel
optimiste, donc on va toujours de l'avant. On est là pour la population, pour aider les gens, et c'est ce qu'on s'attache à faire au quotidien.
Alors justement, aller de l'avant pour un jeune de 16-20 ans qui arrive en tant que sapeur-pompier volontaire, qui pense déjà à son avenir, évidemment à cet âge-là, on ne pense qu'à évoluer. Mmh. Quelles sont les possibilités d'évolution quand on arrive en tant que sapeur-pompier volontaire ?
Eh bien, quand on arrive en tant que sapeur-pompier volontaire, on a déjà toute la partie, ce qu'on appelle la formation initiale, hein, la formation de base, pour tenir tous les emplois opérationnels, hein, qui sont l'équipier secours à personne, l'équipier opérations diverses, l'équipier incendie, voire l'équipier secours routier. Mais c'est la base, c'est le départ. Avec, je fais un petit aparté, mais après je n'irai pas plus dessus parce que c'est... Ça peut être un peu plus complexe à expliquer, avec ce qu'on appelle aussi l'engagement différencié. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire qu'on ne recruterait un pompier volontaire que pour faire, par exemple, qu'une seule mission qui pourrait être le secours à personne.
Ouais.
Voilà, c'est permis par les textes et ça commence à se faire aussi. Bon. Alors, hormis la formation de base, la formation initiale, on rentre comme sapeur. 3 ans plus tard, on peut devenir caporal, chef d'équipe, c'est une autre formation. 3 ans après, on peut éventuellement prétendre à devenir chef d'agrès, c'est-à-dire commander un véhicule, que ce soit sur du secours à personne, des opérations diverses, voire du secours routier. Et encore 4 ans plus tard, on peut aspirer à devenir adjudant, ce qu'on appelle chef d'agrès tout engin, avec la compétence supplémentaire chef d'agrès incendie. C'est-à-dire que on peut monter toutes les strates au niveau des grades, comme ça, en fonction de durée à passer dans le grade. Et à terme, après le chef d'agrès de tout engin, donc chef d'agrès incendie, on peut devenir officier, lieutenant, chef de groupe, pour après commander des interventions avec plusieurs véhicules. Mmh. Et après, il y a le chef de colonne que je suis, la strate du dessus, et enfin, la strate du chef de site. C'est tout ce cheminement qui existe donc pour le pompier volontaire. quasiment sur le même mode que les pompiers professionnels. Alors après, la base de formation est la même, mais les durées divergent aussi un petit peu. Parce que le pompier professionnel a aussi toute la charge à côté de tout ce qui peut être fonctionnel. Donc bon, en termes de formation, c'est quand même un peu plus costaud. Voilà.
Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent en tant que sapeur-pompier volontaire et vous sentez d'entrée qu'il y a un petit truc et vous allez la pousser à évoluer?
Alors, on va pas se mentir, quand on a des personnes qui arrivent avec un petit peu de bagage universitaire, avec une autre expérience professionnelle.
Une condition physique qui peut être au-dessus des autres aussi.
Ou une condition physique au-dessus des autres, ou d'autres aptitudes ou compétences développées, on peut se dire qu'elles pourront peut-être progresser plus vite que les autres. Bon, ça existe, c'est prévu aussi par les textes en fonction des conditions de diplôme. Personne n'est fermé à ces évolutions-là. Le seul point de vigilance, c'est que ce soit vraiment adapté à ce qu'on veut y faire, adapté à la caserne où l'agent sera affecté, de manière à pouvoir s'en servir.
Ouais.
Mais j'allais dire aussi de ne pas à créer des droits qui seraient voilà, j'ai ce grade-là, j'ai ce diplôme-là, donc j'ai le droit de faire ça. Non, c'est plus... Voilà, c'est plus complexe que ça. Il y a tout aussi la dimension managériale du centre de secours qui rentre dedans. Et ça, c'est le plus important. Hein. C'est d'arriver à avoir une vie de caserne la plus équilibrée possible en ayant un management de tous les profils possibles. Hein. Le collectif, c'est tout, mais il faut le gérer, ce collectif.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Ce qui est rassurant quand même à côté de ça, c'est que les jeunes continuent quand même de s'investir. Alors, même s'il y a une recherche de sapeurs-pompiers volontaires, c'est que la jeunesse continue de s'investir.
Ah, la jeunesse continue de pousser la porte des casernes. Il y a une jeunesse qui cherche du sens, qui a des valeurs, qui veut aider. Voilà, on a des... Je pensais à nos centres de secours ruraux, hein. Pas que Moulins. Mais...
Non, il y en a d'autres, il y en a d'autres.
Non, mais toute plaisanterie gardée. Dans les centres de secours ruraux, je sais qu'on a de plus en plus de jeunes qui viennent pousser la porte des casernes, qui viennent se renseigner et qui s'engagent. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça donne foi en l'avenir. Ça veut dire que tous nos... comment je vais dire ça de manière polie, tous ceux qui ont des préjugés sur la jeunesse pourraient se casser les dents, parce que dès qu'on est là pour cibler, généraliser des comportements, là, ça ne marche pas. On a une jeunesse qui, pour certains, a envie de faire des choses, a envie d'expérimenter, a envie d'être utile, de donner du sens et de comprendre aussi. Et c'est peut-être ça qui est une des clés à l'heure actuelle, c'est que notre jeunesse, elle veut bien s'investir, mais elle veut comprendre aussi, elle veut savoir pourquoi elle fait les choses. Et ça me semble être quelque chose à souligner, c'est que ce qui marchait avant ne marche plus forcément aujourd'hui. Il est certainement de notre rôle, voire de notre devoir, d'être de plus en plus accompagnant, guidant pour cette jeunesse, en leur expliquant, hein, voilà. Et moi, je suis un homme de dialogue. Je pense que la majeure partie des choses passe par le dialogue et que c'est une vertu essentielle.
Et c'est porteur d'espoir pour les personnes qui veulent devenir sapeurs-pompiers volontaires. Il y a plein d'informations sur Internet, notamment sur le site de l'État, qui informe.
On trouve tout sur le site de l'État, mais vraiment spécifiquement pour les sapeurs-pompiers de la Nièvre, il y a deux choses. Soit vous vous rendez dans la caserne la plus proche de chez vous si vous êtes intéressé, et bon, vous avez bien compris qu'il y a beaucoup de centres où il n'y a que des pompiers volontaires, donc il n'y a personne en permanence à la caserne. Donc soit on a un CV, peut-être une lettre de motivation, ou on le met éventuellement dans la boîte aux lettres, ou on se renseigne pour trouver le numéro du chef de centre. Voilà. En général, les mairies sont assez réactives sur tout ça, ils ont toujours les contacts. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, on peut remplir un formulaire sur Internet, hein, en allant sur le site du SDIS 58, formulaire de contact, et on peut laisser son nom, son prénom, son âge.
C'est une sorte de candidature.
C'est ça, une adresse mail, et nous, ça arrive dans mon service et on le relaie au centre de secours le plus proche de l'adresse qui est renseignée. Et puis après, les contacts se prennent. Et puis, si les choses, j'allais dire, matchent, eh ben, ouais. on a recruté un pompier volontaire de plus.
Vous voilà. Devenez sapeur-pompier volontaire. Merci beaucoup, capitaine Antoine Ducrot. Merci à vous.
De rien, avec grand plaisir.
Merci.
Merci.
Voilà, Bac FM, tout de suite, c'est le retour du son pop-rock. Je vous donne rendez-vous demain à 13h avec mes invités. On partira direction la N7. Et puis juste après les infos, je vais vous faire gagner 2 places pour le printemps de Bourges. 2 places pour une soirée exceptionnelle au W. Il y a des infos là à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je vous fais gagner ça demain à 13h.